de Luc, chapitre 18, les 8 premiers versets. Voilà, Seigneur, merci d'arroser ta parole, vraiment qu'elle trouve une terre souple pour pouvoir recevoir et pour pouvoir nous interpeller. Voilà, on va aller un peu plus loin que dimanche dernier, je crois que... Oui, Luc 18. Luc 18, 1 à 8. Je crois que ça prolonge un peu ce qui était donné par Jean dimanche dernier. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. » Et il y avait dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Et le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge unique. » Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Alors c'est de la foi que j'aimerais parler ce matin, à travers trois textes, dont celui-ci que nous venons de lire. Avec cette question dérangeante, qui clôture ce texte, c'est plus de la foi que de la prière que j'aimerais parler. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi? Alors cette question est dérangeante si on comprend qu'elle s'adresse d'abord à nous, pas aux autres. Alors vous vous dites peut-être en vous-même, comment moi j'ai la foi et depuis tant d'années, cette question ne me concerne pas. Par contre, c'est vrai, est-ce qu'il y aura beaucoup de croyants quand Jésus viendra? Vous voyez, on peut l'accueillir comme ça, cette parole. Et je crois que ce n'est pas de cette manière que nous devons l'accueillir. Mais comme une interpellation personnelle, quand Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi en moi? C'est le titre de mon message, hein. Trouvera-t-il la foi en moi? Alors mon intention n'est nullement de faire peur, mais de nous tendre vers une foi plus vivante. Et une foi en sa vie abondante. Et c'était vraiment l'invitation qui nous a été donnée par Jean dimanche dernier aussi. Une foi sans limitation, comme celles qui ont été relatées dimanche dernier avec l'histoire de cette femme, qui d'une femme résignée au départ par les blessures de sa vie, notamment sa stérilité, durant de longues années, est devenue une femme à la fois vivante, capable de croire en la résurrection de son fils par Dieu, mais par les mains en même temps du serviteur de Dieu, son prophète Élisée. C'est la question de ce matin. Mon enfant, est-ce qu'il y a encore des limitations dans ta foi? Restes-tu encore bloqué par ces limitations? Y a-t-il quelque part en toi, mon enfant, une racine de résignation ? Méfie-toi que cette racine ne produise de la dureté, de l'endurcissement, de l'incrédulité, et t'éloigne d'une foi vivante, qui est la caractéristique de ces élus dont le Seigneur parle, qui crient jour et nuit. Ces élus sont certainement désespérés d'eux-mêmes. Et souvent, quand on est désespéré de soi-même, on est très proche de la foi vivante. Désespéré d'eux-mêmes, des hommes aussi. Mais ces élus sont certainement pas désespérés de Dieu. Non. Ils s'attendent à lui, ils crient à lui jour et nuit pour réclamer la manifestation de sa justice. Celui ou celle qui crie à Dieu jour et nuit, mais qui dort quand même, hein, je vous rassure, n'est pas une personne résignée. Au contraire, c'est une personne qui a beaucoup de foi et qui a vaincu ses limitations. Sommes-nous cette personne-là? Alors plusieurs, dimanche dernier, ont demandé la prière, parce que ça tapait en plein cœur, hein, pour prier avec Jean et Maggie. Ça m'a beaucoup réjoui. Ça veut dire que plusieurs ont pris conscience de leurs limitations et ont décidé de les surmonter pour ne pas passer à côté de la vie abondante promise par Jésus. Moi-même, je me souviens, lors d'une soirée ici, c'était à la maison de prière, j'ai pris conscience de mes limitations, j'ai appelé Jean, j'ai demandé la prière aussi. Il y a des déceptions humaines par lesquelles nous passons tous, qui peuvent mettre en nous des racines de, vous savez, de résignation. Oh ben non, non, c'est fini, faut plus me parler de ça, faut plus me parler des promesses de Dieu, enfin, il faut absolument pas en rester là. Je me souviens, Jean lui-même m'a avoué à la fin du culte dimanche dernier qu'il ressentait que plusieurs avaient besoin de ce message, mais l'Église aussi avait besoin de ce message. L'Église aussi. Et comprenez pourquoi ce matin j'ai envie d'aller poursuivre là, pour vraiment aller plus loin. Et je me souviens de notre cousin d'Israël, Tony Sperandeo, que je conduisait en voiture vers un lieu de réunion. Il m'a dit, je ressens dans le Nord, il y a beaucoup d'églises avec un complexe d'infériorité, de gens et de personnes qui composent ces églises avec un complexe d'infériorité. Et ça m'a rappelé cette parole. Je me dis, tiens, limitation. Cela affecte considérablement notre vie de prière, qui fait que quelquefois on vient à la prière mais on n'a pas la niaque. On discute souvent, on commente avec un net les personnages politiques. Alors on n'est pas d'accord avec plusieurs, mais parfois on se dit, on n'est pas du tout d'accord avec elle ou avec lui, mais il a la niaque. Il a la niaque. Et nous chrétiens, on doit avoir la niaque. On doit avoir la niaque, hein, d'accord. Quand on vient au jeûne et prière, on a la niaque. On a la niaque parce qu'on sait qu'on a affaire, on sait à qui on a affaire. Je reviendrai après. Hein, je voudrais que nous soyons une église de personnes conscientes de leurs limitations, mais pas résignées. Au contraire, déterminées à surmonter ces limitations pour s'attendre encore aux merveilles de Dieu, aux signes de son royaume, parce que connaissant notre Dieu. Et cela m'amène à une déclaration de foi. C'est le deuxième texte, donc de Paul, et ça se trouve donc en 2 Timothée, chapitre 1. 2 Timothée, chapitre 1, versets 6 à 15. On va lire les versets 6 à 15. C'est le deuxième texte. Il y en a trois en tout, hein. De Timothée 1, 6 à 15. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Quand Paul écrit ça, je crois qu'il est prisonnier, hein. Mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Seigneur, Sauveur, pardon, Jésus-Christ, qui a détruit la mort, a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'étais établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Pouf, j'arrête là. Je ne vais pas plus loin. On est bien ici dans notre thème. L'apôtre Paul s'adresse à quelqu'un qui manifeste des limitations dans sa foi. qui semble même régresser dans sa foi, le jeune Timothée, alors qu'il était plein de promesses, comme la première lettre le laisse entendre. Timothée semble bloqué par la timidité et la honte, ce qui pousse Paul à le booster. Probablement, il y a une œuvre d'intimidation de la part de l'adversaire, peut-être par le moyen de faux apôtres, de chrétiens rétrogrades, d'une persécution. Peut-être même le fait que Paul est en prison, ça l'a affecté. Négativement. Alors comment Paul s'y prend pour le booster? Il déclare ne pas avoir honte et lui montre que la nature de Dieu et de l'Esprit Saint n'a rien à voir avec la honte, la crainte et la résignation. Au verset 7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et on sait que Paul a connu la prison, le naufrage, la lapidation, la faim, la soif, la nudité, la maltraitance. Et bien ce qui est le plus dur peut-être, l'abandon. L'abandon. Là, au moment où il dit, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Et il dit à un moment, je suis passé par un tribunal, et dans ma première défense, tous m'ont abandonné. Tous m'ont abandonné. Vous voyez la force de foi de Paul, qui aurait pu être par terre. Il a connu l'isolement en tant que serviteur de Dieu. Que cela nous encourage lorsqu'un frère ou une sœur arrête de nous aimer. Que cela nous encourage. Vous voyez la force de foi. Chers amis, quelle limitation il y a dans ma foi qui m'empêche, qui empêche qu'elle se développe, qui m'empêche d'expérimenter la vie abondante, qui m'empêche d'avoir la même assurance que Paul, qui m'empêche de tenir ferme. Je vous cite quelques limitations que Paul cite dans d'autres passages. Et peut-être ça peut nous parler, vous parler, juste. Paul y cite un moment l'amour de l'argent. C'est une limitation. Car l'amour de l'argent, c'est dans 1 Timothée 6, 10, je n'ai pas obligé de le prendre, mais ceux qui prennent des notes pouvaient noter la référence. 1 Timothée 6, 10, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. On pourrait dire, d'une manière générale, des mauvaises priorités dans nos affections. Colossiens 3 nous dit, Paul il nous dit encore, affectionnez-vous aux choses d'en haut, hein. On connaît ce passage. Une troisième chose, une mauvaise conscience. C'est dans 1 Timothée 1,19 où Paul dit, garde la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Quand notre conscience nous reproche quelque chose, réglons vite. N'étouffons pas la voix de la conscience, parce que ça peut nous éloigner ensuite de la foi vivante. Et je cite une quatrième chose dans Galates 5,6. Galates 5,6, où Paul dit que la foi est agissante par l'amour. Ça, je l'ai souvent dit, je le rappelle souvent, un manque d'amour nous fait déraper par rapport à la foi. Donc restons toujours sur le terrain de l'amour. Demandons au Saint-Esprit, quelle limitation me bloque, empêche ma foi de se développer. Est-ce qu'on veut en sortir? Ou est-ce qu'on se résigne à vivre avec cette limitation qui peut nous rendre passifs, par exemple dans la prière, qui nous bloque pour prier à haute voix, qui nous empêche de pardonner, qui nous empêche d'aimer, de nous lever pour prendre autorité dans certaines situations, pour intercéder pour des personnes en souffrance, qui nous empêche de développer les talents que Dieu nous a donnés. D'accord? On ne veut pas rester des bébés pendant des années. On veut développer notre foi. Et moi, je suis heureux quand certains disent, vont me trouver ou vont trouver quelqu'un d'autre en disant, je veux te voir parce que je veux m'en sortir, je sens que j'ai des blocages et puis je veux aller plus loin, quoi. Ouais. C'est important. Est-ce qu'on veut passer à côté de la vie abondante au risque de faire naufrage, nous aussi? Choisissons d'être cette femme qui est allée voir le prophète Élisée. Choisissons d'être ces élus qui s'attendent à lui jour et nuit. Choisissons d'être comme Paul. Nous voulons recevoir cette foi vivante pour surmonter les situations des portes qui parfois semblent fermées. Surmonter la peur, surmonter l'épreuve de la persécution, surmonter les déceptions humaines, les abandons de nos frères ou de nos sœurs, pour résister au diable et à son œuvre d'intimidation, pour être confiant et patient jusqu'à ce que Dieu envoie la moisson qu'on attend. Mais quel est le secret de Paul ? Une telle foi. Et j'ai demandé au Seigneur en début de semaine, « Seigneur, allez, donne-moi une clé au niveau de la foi, parce que si j'ai pris ce sujet, c'est que je le sens pour moi-même, bien entendu, que j'ai besoin de grandir. J'ai demandé au Seigneur, donne-moi une clé. Quel est le secret de Paul ? Et le Seigneur m'a guidé vers cette deuxième déclaration qu'il fait dans ce texte au verset 12. Je sais en qui j'ai cru. Et c'est un peu l'interpellation du Seigneur avec la parabole du juge inique. Trouvera-t-il la foi ? Mes enfants sauront-ils toujours en qui ils croient ? C'est ça. Connaîtront-ils toujours celui en qui ils croient ? Je sais en qui j'ai cru. Et j'ai cherché le sens original du mot grec « je sais ». Et j'ai trouvé ceci. Et je crois que ça dévoile un peu le secret. Je sais remarquer, discerner, découvrir, tourner les yeux, l'esprit, l'attention vers quelque chose, redoubler d'attention, observer combien Jésus, constamment dans les évangiles, nous invite à observer, observer les lys des champs, observer, regarder, regarder. Jésus était un observateur attentif. Examiner, inspecter, percevoir avec les cinq sens. Il y a donc la notion d'observation attentive. Et Paul était aussi un observateur attentif. Mais il n'y a pas que cela. Voici encore ce que j'ai trouvé. Une connaissance fondée sur une expérience personnelle. Une connaissance obtenue par la proximité de la chose connue. Donc on peut ainsi résumer en disant que la foi de Paul, l'observateur attentif, vient d'une connaissance fondée sur l'expérience de Dieu dans sa vie et l'expérience de sa proximité tous les jours, y compris dans toutes ses épreuves. Paul n'avait pas seulement une culture de la foi, mais il avait une culture de l'intimité avec Dieu. Et c'est ce qui fait la différence. Et nous avions, Annette et moi, notre partage mensuel avec nos amis d'Embrasse nos cœurs, et souvent au cours de ces partages, je reçois pour mes messages aussi. Le Seigneur, dans ce partage profond, nous parle, me parle, et il m'a parlé. Ce fut un temps où le Seigneur m'a parlé pour ce message. Et nos échanges, et nos prières ont convergé sur cet appel à avoir cette culture de l'intimité. Beaucoup de chrétiens ont la culture de la foi, ils connaissent leur credo, ils ont expérimenté le salut, ils fréquentent une église, mais tous ont-ils la culture de l'intimité avec le Seigneur? Chers amis, est-ce qu'on peut décider ensemble ce matin, fort du message de dimanche dernier et de ce matin, nous décider à explorer le champ de l'intimité avec le Seigneur. Le champ de l'intimité. Et le Seigneur m'a montré quatre démarches toutes simples pour explorer le champ de l'intimité avec le Seigneur. Toutes simples. Certains, vous allez dire, ah ben oui, ça je l'ai entendu. Mais vous allez faire le constat et constater que souvent, nous sommes négligents dans ces quatre domaines. Un, on le tire de ce qu'on vient de dire, du sens du « je sais », apprendre à observer attentivement. Nous devons être, chers amis, des observateurs. Pour percevoir la présence du Seigneur chaque jour. Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » et n'était-il pas lui aussi un observateur attentif, invitant à observer la nature, etc. Apprenons à le percevoir, et je l'ai entendu dans la prière d'Odette, dans un sourire partagé, dans la beauté d'une fleur, dans la chaleur d'un rayon de soleil, dans le regard d'un mendiant. Et souvenez-vous, dans le « je sais » de Paul, ça contient la perception des cinq sens. Donc ce n'est pas seulement voir, c'est entendre, c'est goûter, c'est toucher, c'est sentir. Apprenons à percevoir sa présence par l'esprit, à sentir son parfum, à écouter sa voix. Je rajouterai dans ce point sur observer, apprenons à observer, je dirais même plus à contempler le corps brisé de Jésus. À contempler la croix. Parce qu'il y a cet amour, cette grâce, cette révélation de la croix fait couler quelque chose en nous. Un, apprendre à observer. Deux, apprenons dans cette observation à recevoir sa grâce à tout moment. Dans les moments de joie, d'exaltation, mais dans les moments ternes et plats qu'on traverse tous, il y a des moments où on ne sent rien. Mais pourtant, est-ce que Dieu ne veut pas communiquer sa grâce aussi à ce moment-là? Il a dit « Je suis avec vous tous les jours, même dans ces moments-là. » Et dans les moments d'épreuve. Paul, à un moment, vous connaissez tous, il évoque une souffrance personnelle qu'il avait, souffrance physique, il parle d'une écharde, et on ne sait pas ce que c'est, une écharde. Et il a crié, il a supplié Dieu, comme ses élus, supplié. « Seigneur, aide-moi, je souffre !» Et le Seigneur lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit ?« Ma grâce te suffit. » Ah bon ? C'est un mot en l'air ? C'est une formule ? Ou c'est une réalité ? Est-ce qu'on croit que c'est une réalité ?« Ma grâce te suffit. » Waouh ! Et Dominique, le témoignage de Dominique qui remonte la foi des autres, c'est pas le témoignage d'une grâce là ? Ma grâce te suffit. Le Seigneur nous offre sa grâce et on l'a expérimenté mille fois, j'en suis sûr. Dans des moments où d'un seul coup on a ressenti sa joie, d'un seul coup pas grand-chose nous faisait remplir de joie. Des joies toutes simples, un sourire reçu en méditant une parole de Dieu qui nous a mis en joie. Je me souviens d'un petit cadre qui se trouvait dans la chambre de ma mère, qui avait été offert par un de ses fils, certainement. Et ce cadre, il était marqué « La joie est en tout, il suffit de l'extraire. » Ben moi, je crois que ça parle un peu de la grâce. La grâce est partout. Il faut la découvrir. Ah, je vous encourage à... Moi, j'ai l'impression que je suis tout début seulement. Mais je vous encourage, on s'encourage mutuellement à explorer ce champ de l'intimité et à essayer de recevoir sa grâce disponible à tout moment et en toutes circonstances. Apprendre à observer, hein? Apprendre pour percevoir la présence, apprendre à recevoir sa grâce. Trois, apprendre. On l'a entendu mille fois aussi ça. Mais est-ce qu'on le vit, est-ce qu'on le néglige pas? Rendre grâce à tout moment. Remercier, reconnaissance à tout moment. Vous connaissez tous les livres qui ont fait un tabac et qui ont changé des vies. La puissance de la louange, de la prison à la louange. Mais ce n'est pas des livres, c'est parce que ces livres ne viennent que confirmer l'enseignement de la parole de Dieu, hein, qui dit dans Éphésiens 5, 20, « Rendez continuellement grâce pour toute chose à Dieu le Père. » 1 Thessaloniciens 5:18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Colossiens 3:15, que la paix du Christ règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Donc ces livres ne font que confirmer. Chers amis, si on persévère dans ces démarches à explorer ce champ de l'intimité en apprenant à observer, en apprenant à attendre et à recevoir la grâce de Dieu, et trois, à rendre grâce en tout moment, je vous garantis qu'il y a des choses qui vont changer. Je vous garantis que la présence de Dieu sera plus effective. Et dans cette reconnaissance permanente, nous allons expérimenter que notre Dieu, c'est le Dieu qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Quatrième démarche qui résume le tout. Apprenons à faire de chaque journée, dans tous nos gestes, même les plus routiniers. Pour les dames, quand vous repassez, ça c'est casse-pied. Pour les hommes, quand vous rangez vos affaires, ou quand vous marchez dans la nature, apprenons dans tous nos gestes, toutes nos pensées, de chaque jour, à en faire un acte d'adoration. Et là, certainement, il y a des frères et des sœurs catholiques qui peuvent nous apprendre là-dessus. Ouais. Apprendre que notre communion devienne comme la respiration continuelle. Acte 17:28 dit « En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être ». Dans d'autres endroits, il est dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, non pour des hommes. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, que vous fassiez autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Vous savez, j'ai longtemps pensé que l'intimité concernait seulement le temps mis à part pour lui. Et il faut des temps mis à part. Et j'ai donné un message il y a quelque temps sur la mise à part, donc je ne renie surtout pas ce message. Mais vous voyez, quelquefois on comprend que notre spiritualité est d'être quelqu'un qui va passer le plus de temps possible mis à part. J'ai plus de temps en ce moment, dans mon congé maladie, je prends plus de temps. Et vous savez, les quelques fois où à la fin de mes temps, je me disais, c'est bon hein, quand même Jean-Luc là, t'as passé du bon temps avec Dieu, c'est bon. Maintenant, tu peux vaquer à tes occupations. Une petite voix qui me dit, non. Ça va pas, ça. Est-ce que ça veut dire alors que tu t'arrêtes d'être en communion avec moi dans tes occupations? Non. Et cette petite voix, vraiment, du Saint-Esprit, me disait, est-ce que tu quittes maintenant la communion avec moi? Ça veut dire que tu ne vas plus penser à moi, tu ne vas plus percevoir mes attentions, mes grâces, alors que moi je ne cesse pas de t'observer, même quand tu fais des choses toutes routinières. Oh, j'étais touché dans des jours de prière au Château Blanc où il y avait parfois des paroles de connaissance, et il y avait cette parole qui disait, mais j'aime t'observer, j'aime te regarder. Même quand tu fais des choses, quand tu épluches les pommes de terre, quand tu voyais. Dieu est comme ça. Et il s'attend à ce que nous soyons comme lui aussi. Dans cette communion permanente. Vous comprenez qu'il nous faut aller plus loin. Qu'il faut cultiver le champ de l'intimité avec le Seigneur. Jusqu'à faire de chaque journée un acte d'adoration. C'est cette culture de l'intimité qui va nous faire dépasser nos limitations et qui rendra notre foi vivante. Est-ce que c'est cette foi vivante que le Seigneur trouvera quand il reviendra? Et je vous dis cela pour que nous ayons de l'assurance pour le jour de son retour. Est-ce qu'on est décidé ensemble à explorer le champ de l'intimité? Et donc je termine avec les derniers conseils de Paul, le verset 6 qui ouvre ce paragraphe et le verset 14, ranime le don que tu as reçu. On a chanté tout à l'heure, souffle, souffle, Esprit Saint. Verset 14, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Jésus est avec nous tous les jours par l'Esprit Saint qui nous a donné et qui habite en nous. C'est ce don que nous devons ranimer pour nous permettre de cultiver le champ de l'intimité. Hein? Le don dont parle Paul, c'est l'Esprit Saint. Et c'est ce dépôt que nous devons garder. Cela nous rappelle les vierges sages et les vierges folles. Vous vous souvenez? Les vierges sages avaient cette réserve d'huile. Hein, je relis ça et je termine avec ce texte. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles. 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. On pourrait dire peut-être, ce sont des gens qui ont la culture de la foi, mais n'ont pas la culture de l'intimité. Il leur manque l'huile qui coule. Cette culture, l'intimité, ce don de l'Esprit qui est animé en eux, qui les fait vivre. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases, comme l'époux tardait toute s'assoupir et s'endormir. Et au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Et alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes ne s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Chers amis, soyons ces vierges sages qui avaient leur réserve d'huile parce qu'elles ont cultivé le champ de l'intimité avec le Seigneur. En apprenant par l'Esprit à observer pour percevoir la présence du Seigneur, en apprenant par l'Esprit à recevoir la grâce à tout moment, en apprenant par l'Esprit à rendre grâce à tout moment, à le remercier avec reconnaissance, en faisant de chaque journée un acte d'adoration, toujours par l'Esprit. Voilà, je pense, le secret de la foi vivante qui nous permettra de dépasser nos limitations et d'acquérir de l'assurance. Est-ce qu'on veut ensemble? Je suis comme vous, avec mes faillites, avec aussi des limitations qui quelquefois veulent reprendre le dessus. Voulons-nous ensemble commencer à explorer ce champ de l'intimité, cultiver ce champ? Il y a un champ qui, là, un champ C-H-A-N-T, plus C-H-A-M-P, qui exprime bien l'intimité et la communion avec le Seigneur, et qui montre la communion comme une respiration. Et ce chant s'appelle « Cet air que je respire ». Et je vous invite à prendre ce chant comme une prière. On va se lever, d'accord? Puis on va essayer. Ce n'est pas un chant qu'on a chanté souvent, hein? On va essayer. On va essayer comme une prière. « Cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi ».